une parole que personne ne veut entendre, celle de l'enfant, qui à l'origine, vous le savez, infance, est celui qui ne parle pas. Et pourtant, vous vous souvenez du conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur, qui est un conte sur le langage, je crois. C'est l'histoire d'un empereur très coquet, à qui deux charlatans vendent un habit dont l'étoffe ne serait vue et comprise que par les gens intelligents. Il se rend compte que l'habit n'existe pas, mais il ne dit rien, de peur qu'on le remette en question son intelligence. Et tout le monde se tait pour les mêmes raisons, jusqu'à ce qu'un enfant dise tout haut ce qui apparaît aux yeux de tous, le roi est nu. Ça vaut pour un habit, pour une étoffe, pour un tissu, mais ça vaut aussi, peut-être surtout, pour un langage dont tout le monde peut se rendre compte qu'il est vide, qu'il est creux, qu'il est nu, et tout le monde continue à faire comme si. Ce qu'on oublie souvent dans le conte d'Andersen, c'est la fin. Les habitants entendent l'enfant et lui donnent raison. Le roi entend l'enfant lui aussi et lui donne raison, mais il continue à marcher comme si de rien n'était. Quand Greta Thunberg cite ce conte en marge de la COP26 à Glasgow, elle parle de cette vérité que tout le monde sait, mais qu'on laisse passer, celle d'un langage, paré de ses plus beaux atours, mais qui n'est rien que du baratin, du bavardage, comme elle dit, du blabla. Et le pire, c'est que plus personne n'y croit, mais on fait comme s'il avait des habits, le roi.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quelle vérité nue nous parle mon invité d'aujourd'hui? Elle est romancière, s'amuse des genres et des frontières, et chacun de ses livres est à lui seul un monde. Prix du Livre Inter, je le disais il y a 9 ans pour Faillir être flingué, son nouveau livre Plasma paraissait à la rentrée 10 textes, 10 nouvelles, 10 chapitres peut-être qui nous plongent dans un univers post-humain et nous suspend quelque part entre l'espace et les profondeurs de la Terre, un texte fulgurant sur l'avenir du vivant. À mon avis, bonjour Céline Minard.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, parce que c'est vous qui m'avez soufflé ce conte, une fois que l'enfant a dit « le roi est nu » ou « l'empereur est nu », qu'est-ce qui se passe?
Ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Ben je ne sais pas ce qui se passe, on va voir ce qui se passe. Mais je pense qu'il se passe une prise de conscience quand même. Et que le... c'est... ce qu'elle dit quand elle dit « le roi est nu », elle est l'enfant qui dit ça, effectivement. C'est une très jeune femme qui dit, qui ose dire, il est à poil.
Ouais. Oui.
Et le pouvoir ne repose que sur les gens qui lui confèrent ce pouvoir.
Mais le problème, Céline, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose en réalité. C'est évidemment, c'est ce qu'entendait Greta Thunberg en marge de la COP26 pour le climat. Celle-là même qui a abouti à des accords que beaucoup jugent décevants. Non ?
Bien sûr. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il se passera nécessairement quelque chose.
Et alors, quand il ne se passe rien, quand la voix de l'enfant est ignorée, quelle suite peut-on imaginer au conte ?
Ouais, et ben peut-être que le roi continue à marcher jusqu'au bord de la falaise d'où il va nécessairement dégringoler.
Il tombe. Vous, l'avenir de notre planète, comment est-ce que vous l'imaginez? Vous qui, avec Plasma, nous invitez à une plongée hein, dans un monde d'anticipation.
Je sais pas comment je l'imagine, je pense qu'il y a différents possibles justement, et que c'est ça Plasma, c'est le monde au moment où il est explosé et où on voit tous les fragments. Et part encore en mouvement, encore en suspension. Et on va voir si on donne le coup de talon ou le battement d'aile nécessaire à prendre une moins mauvaise direction.
C'est un monde où le vivant serait soumis à des mutations inédites, en tout cas, ce qui apparaît dans Plasma.
Oui.
Quelles mutations?
Toutes sortes. Génétiques, des mutations entre l'arbre et l'homme, entre l'arbre et enfin l'animal et l'humain, entre... Des transformations d'espace ou des interpénétrations d'espace.
Et la littérature, elle mutera aussi?
Elle mute toujours, sinon elle n'est pas littérature.
À quoi ça ressemble une littérature mutante, Céline Minard?
Eh bien, certainement à quelque chose qui réinvente la perception, je pense. La perception, les perceptions habituelles. Pour moi, je pense que c'est ça. Et il faut transformer, parfois légèrement, ça suffit, les perceptions qu'on a, les références qu'on a, les faire jouer et les faire se dégrader d'une certaine façon pour donner une autre chimère, un autre monde, une autre forme de monde.
Et qu'est-ce qu'on fait du langage?
On travaille.
On le travaille? Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on le pousse à la limite du sens ou à la limite de l'évocation possible, à la limite de la sensation.
Céline Minard, est-ce que le monde de demain vous inquiète?
Bien sûr. Le monde d'aujourd'hui m'inquiète.
Pourquoi?
Parce qu'il est angoissant, parce que effectivement, on ne sait pas comment on va continuer à vivre et sous quelle forme, avec quelle énergie.
Vous savez, je vous pose la question parce qu'avec ce livre, Plasma, finalement, c'est la première fois, j'ai l'impression, que vous confrontez pleinement à l'actualité. Ça n'était, pour ainsi dire, jamais arrivé auparavant. Pour quelle raison, d'ailleurs?
Je suis d'accord, c'était jamais arrivé. C'est mon livre actuel. Je pense qu'avant, c'était arrivé, mais par des détours. Bah, Star Battle, ça parlait d'actualité.
Grand roman de science-fiction, ouais. Jouissif.
Grand roman médiéval, mais qui parlait du contemporain. Et là, c'est beaucoup plus frontal, effectivement. C'est des thématiques, des thèmes et des inquiétudes qui sont absolument actuelles.
Parce que ce livre sort après plusieurs confinements, alors même que la pandémie semble regagner du terrain aussi.
Alors, je l'ai commencé avant le confinement, mais je l'ai continué pendant le confinement, effectivement. De toute façon, l'interrogation était déjà dans ma tête et m'absorbait déjà sur les mondes fragmentaires dans lesquels nous vivons. C'est pas la pandémie qui a déclenché l'écriture du texte. C'est vraiment l'état du monde et l'état de la nature qui se réduit en timbre-poste.
Pour autant, en quoi est-ce que cette pandémie interroge la relation que les êtres humains ont avec le vivant? Parce que j'y ai pensé dans la réponse qu'apporte l'un de vos personnages qui se reconnecte à un arbre, justement.
Mais c'est... Le vivant, là, il est hyper, hyper sensible, puisque voilà, le virus de la chauve-souris passe à l'homme, ça n'aurait pas dû arriver, peut-être par un autre animal, peut-être pas. Donc là, c'est un rapport intime, direct et pathogène. Et ce faisant, ça relie tous les hommes ensemble, puisque ça commence par les Chinois et ça finit par la Terre entière. Donc, on est à la fois dans une transmission d'espèces interspécifiques et dans une transmission globale. Donc, il y a quelque chose qui est dans cette pandémie mon livre peut-être ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est à la fois fragmentaire, ça part de timbre-poste et en même temps, ça englobe le monde entier et ça touche tout le monde. Donc on est à la fois séparés et très reliés. Et très reliés, on ne veut pas le savoir.
Qu'est-ce que ça change en fait, Céline Minard, pour vous en tant que romancière, de sortir un livre qui parle de l'actualité? Je me suis posé la question.
Je ne sais pas ce que ça change. Peut-être que c'est un engagement quand même.
Et oui. Et oui, en quoi raconter le monde et l'imaginer sous d'autres formes, c'est peut-être déjà commencer à le changer.
C'est ça, je pense que c'est ça. En même temps, c'est toujours ça dans tous les livres. On parle pour construire une autre réalité possible. Mais dans celui-là, ça me semblait très urgent de développer des espaces hybrides, étranges, mais qui resteraient des espaces respirables, parce que c'est quand même toujours ça que je fais, creuser des espaces respirables.
Alors comment on fait pour faire respirer quelque chose par du texte, par des mots, par des phrases?
Je sais pas comment on fait, on essaye de le faire.
Comment on essaye de le faire?
On essaye de le faire, je pense que c'est aussi beaucoup des textes qui sont dans la matière et dans la sensation, dans la perception. Ce ne sont pas des textes abstraits, à chaque fois c'est une immersion dans un élément ou dans plusieurs éléments, mais avec une petite rotation, je dirais, une inversion de regard. Mais on est dans une matière, ça peut être l'eau, ça peut être l'air, ça peut être la terre, mais on est plongé dedans, c'est pas du tout, c'est très concret. Et là. Perception du monde est très concrète.
Au fond, quelle force est-ce qu'il faut pour être capable d'imaginer, de s'échapper de la réalité telle qu'elle nous est donnée, pour en proposer une alternative, plutôt des alternatives?
C'est une force vitale, c'est un désir de survie quand même, et de transformation.
C'est ça l'écriture pour vous, c'est survivre?
C'est survivre, c'est se métamorphoser, c'est ouvrir.
Celle qui ne s'ouvre pas dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Céline, c'est évidemment la culture et son actualité tout à fait terre à terre. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 25 novembre? Baker de gloire, Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre prochain, mais dès aujourd'hui, cette icône résistante, militante des droits civiques, est à l'honneur d'une exposition hommage organisée au sein de la piscine parisienne qui porte son nom. Gratuit et ouvert à toutes et à tous, l'événement Joséphine Baker au fil de l'eau propose de retracer son histoire, ses engagements et son cheminement artistique à travers un parcours multimédia entre peinture, sculpture, street art, création numérique.
5, 4, 3, 2, inclusif. Les Brit Awards, équivalent britannique de nos victoires de la musique, ont annoncé hier qu'ils abandonnaient la distinction homme-femme dans la répartition de leurs catégories et récompenses. Concrètement, lors de la prochaine cérémonie du 8 février, il n'y aura plus d'artiste masculin de l'année ou d'artiste féminine de l'année. Désormais, ce sera juste artiste de l'année, tout genre confondu. Une décision favorisée l'année dernière par l'exclusion de la compétition de l'artiste Sam Smith, qui se définit comme non-binaire. Sa bulle pour Panation, le prix Landerneau de la BD 2021, attribué par un jury de 10 libraires spécialisés, a été donné hier au bédéiste Grégory Panation pour Quelqu'un à qui parler, adaptation poignante du roman de Cyril Massarotto. Sur près de 250 pages, l'auteur dessine le désarroi d'un trentenaire solitaire qui, le soir de son anniversaire, décide de composer le seul numéro qu'il connaît par cœur, celui de sa maison d'enfance. Débute alors un dialogue poétique, tendre et humoristique avec l'enfant qu'il était à l'âge de 10 ans. Et enfin les guitares du cœur, certaines des plus célèbres icônes du rock comme Paul McCartney, Bruce Springsteen, Ron Wood ou Thom Yorke vont mettre aux enchères leurs guitares au profit de l'association Music Rising, une œuvre de charité créée en 2005 pour aider les artistes touchés par l'ouragan Katrina, qui s'occupe désormais de soutenir les musiciens mis à mal par la pandémie de Covid depuis 2 ans. Ouverture des enchères le 11 décembre, à votre bon cœur. La romancière Céline Minard, invitée de Boomerang ce matin pour Plasma, ce livre qui est d'abord né de la recherche d'une forme suspensive, dites-vous. Qu'est-ce que ça veut dire, une forme suspensive?
Ça veut dire sûrement une forme qui reste en l'air, quoi, qui est à la fois complète, incomplète, fragmentaire, mais un écosystème, un bout d'écosystème à partir de quoi on pourrait tout reconstituer et qui reste suspendu.
Est-ce que tout part toujours d'une ambition formelle chez vous?
Je ne sais pas. Et elle n'est jamais seulement formelle, parce que pour moi, c'est rien. Comme une forme, c'est vide, n'est-ce pas? Donc ça peut structurer un texte, mais il faut la nourrir, bien sûr. Et tout vient un peu en même temps.
Ah, c'est passionnant. J'allais vous demander, que raconte une forme? En fait, rien du tout, dès lors qu'elle n'est pas nourrie.
Dès lors qu'elle n'est pas nourrie, ça ne raconte pas grand-chose. Mais ça peut quand même être une série d'indications... structurel.
En tout cas, ce que je trouve passionnant dans cette idée de la suspension, qui est par ailleurs une image très présente dans votre livre, c'est l'idée d'un mouvement. En quoi, pour vous, n'y a-t-il pas d'art, de poétique sans mouvement, Céline Minard?
Absolument, c'est ça. Il n'y a rien sans mouvement. Il n'y a pas de vie sans mouvement. Il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de... S'il n'y a pas de déplacement, et s'il n'y a pas de grâce, en fait, il n'y a rien.
Et alors, accepter le mouvement, est-ce que c'est facile pour autant? Après tout, en art comme dans la vie, il semble toujours y avoir des règles, même implicites, qui posent des cadres dont les frontières peuvent être parfois très rigides. Il faut l'accepter.
Quoi, les cadres?
Mouvement.
Le mouvement, il est très acceptable, le mouvement. C'est fascinant, le mouvement. Moi, je peux regarder bouger un cheval, un chat, un chien ou un oiseau pendant des heures. C'est fascinant. C'est fascinant, c'est beau. Non, c'est le mouvement, il doit... C'est pas... Ce qu'il faut accepter, et surtout ne pas accepter, c'est le cadre. C'est ça qu'il faut dépasser, déboulonner.
Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez hors cadre, vous?
Assez tôt, je pense.
Et quels en étaient les signes?
Il y avait tout un tas de signes. C'était multiple. Les signes étaient multiples. Je sais pas, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire en littérature, entre autres. Et si ça ressemblait à rien, c'était pas grave.
Sortir, s'émanciper, le mouvement, je le disais, qui est central chez vous et dans toute votre écriture, Céline Minard, en quoi l'écriture d'ailleurs est-elle liée au mouvement, même physiquement, hein?
En tout, je pense que c'est vraiment l'inscription, la trace d'un mouvement, celui de la main, bon, j'écris à la main, mais c'est surtout un mouvement de pensée dont il s'agit là, et pour moi la pensée et le corps, c'est pareil, on est quand on pense, on bouge. Et d'ailleurs, je ne peux pas rester assise à une table pour écrire, ce n'est pas possible. Et donc, c'est vraiment comme la trace animale, hein, qu'on peut lire dans les herbes avec 2-3 branches cassées. Et c'est ça l'écriture, c'est la trace animale sur la page.
Vous dites que vous écrivez en mouvement, justement? En marchant?
Oui. Non, pas en marchant, mais je peux prendre des notes en marchant. Mais par exemple, j'aime bien écrire dehors, parce que s'il y a un oiseau qui passe, il va passer dans la page d'une façon ou d'une autre.
Quand vous dites que vous prenez des notes en marchant, ça, il faut faire attention quand même.
Oui, surtout en montagne.
Je vous parle de ça parce qu'à travers l'un des personnages de Plasma qui s'appelle Emmett, il est question d'immobilisation. Et en l'occurrence, c'est après un accident que vous avez immobilisé et lors de votre réapprentissage de la marche que vous avez commencé à écrire. Quel souvenir est-ce que vous en gardez de cette rééducation et de ce passage à l'acte, hein ? Parce que c'est ça dont il s'agit.
Oui, c'est vrai. Mais tout était très lié. En fait, je n'étais pas gravement blessée, mais en fait, il fallait quand même que je réapprenne à marcher. Et pour ça, j'ai relu Rousseau, en fait, et ce passage des Confessions où il écrit comme il pense, comme il imagine, en fait, quand il marche. Et comme c'est bien plus volumineux que quand il est à une table. Et voilà, je pense que... Voilà, écrire et marcher, c'est des choses qu'on apprend très tôt, qu'on apprend néanmoins. Et c'était l'occasion d'apprendre à écrire.
J'adore cette histoire. Qu'est-ce qui, avant cet accident, vous empêchait de vous glisser dans le mouvement de l'écriture, Céline Minard ?
Ben, peut-être parce que je ne savais pas que j'avais appris à marcher.
Comment ?
Oui. Vous savez, je ne savais plus non plus que j'avais appris à écrire. Je ne me souviens pas d'avoir appris à écrire ou à lire. Et là, c'était l'occasion d'avoir conscience que c'est un exercice, un effort, et une découverte et une ouverture du monde, voilà, différente du réflexe ou de l'apprentissage dont on a oublié les fondements.
Alors, il a fallu réapprendre à écrire aussi.
Ah ben oui.
Physiquement.
Physiquement, ça allait, mais enfin, il fallait apprendre à inventer des phrases, voilà, à créer des phrases.
Vous n'écriviez rien auparavant ?
Non.
Rien du tout ?
Du tout.
Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écrivez ?
Eh bien, on est dans un état de concentration qui est assez étonnant, quoi. On est en prise avec l'extérieur, mais pas du tout. On est complètement allumé et très concentré et très maîtrisé. C'est très lent. C'est un effort, vraiment. Et en même temps, c'est un autre état de l'être.
On reste un corps ?
On est un corps.
Qu'est-ce que c'est un corps pour vous ?
C'est une complexité. Et une multitude de façons de percevoir le monde.
C'est une question. Que c'est ça. Une série de questions.
Une série de sensations questionnables.
On va reparler, évidemment, de corps, ensemble. Mais aussi de mutations, et puis de frontières aussi, et puis d'avenir. Juste après, vous l'avez reconnu, Radiohead, Karma Police, sur l'album OK Computer en 1997. Vous êtes sur France Inter avec Céline Minard. On parle de littérature et vous écoutez Boomerang, évidemment.
this is what you get when you mess with love.
Alors c'est assez intéressant parce qu'on est quelque part entre Camille Claudel et Madame Mime. Physiquement, le cheveu et la mèche ensorcelante, l'œil expérimental, l'âme anglaise, tout en sweat à capuche grise. Ce matin, la romancière Céline Minard, invitée de Boomerang. Ce matin, pour Plasma, donc, et pour parler de monde, d'écriture, de langue aussi. Un jour, vous avez dit, je crois que vous vous désoliez de devoir vous contenter d'une seule langue. J'adore cette phrase. Céline Minard, dans quelle langue est-ce que vous écrivez ?
Oh, j'écris en français, plus ou moins.
Je suis content de vous l'entendre dire. Et tout est dans le plus ou moins.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien écrire dans toutes les langues.
Dans quelle langue ?
Ah bah toutes. D'ailleurs, oui, dans toutes. Parce que là, ce serait ça. Là, ce serait sérieux comme boulot d'écrivain. Peut-être un peu trop sérieux. Mais bon, j'essaye de faire entrer quelques autres langues dans le français.
Vous les apprenez perpétuellement ?
Non, pas du tout, je suis nulle. J'arrête pas de déraper en langue étrangère, c'est terrifiant. Mais c'est pas grave, parce que ça amène des confusions qui enrichissent mon français.
Et peut-être que c'est dans le dérapage, justement, que la langue s'enrichit.
Oui, mais c'est ça. Oui,
faudrait le dire à l'Académie française, Céline.
Ah, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait dire à l'Académie française.
Comme quoi, par exemple, que la langue ne saurait être dans un cadre, puisqu'on en parlait tout à l'heure.
Effectivement, ou qu'il faudrait peut-être élargir, assouplir les cadres et puis écouter l'usage, plutôt que d'essayer de le définir et de faire les flics.
Parce que le mouvement se réalise justement dans l'usage.
Oui, et puis partout.
Dans quelle mesure écrire, c'est d'ailleurs toujours réinventer sa langue ?
Ah ben c'est ça. C'est dans cette mesure-là. Enfin, moi, en tout cas, à chaque livre, j'essaye d'avoir ce rapport, cet état de langue différent à chaque fois.
C'est-à-dire que c'est une langue qui est propre au texte, qui est propre à l'histoire que vous racontez.
Oui, toujours. Toujours. Il faut que j'ai ce ton, presque cette rythmique ou une tessiture, je ne sais pas comment le dire, pour cette histoire-là ou ces histoires-là.
Donnez-nous un exemple, une phrase d'où serait parti un de vos livres, par exemple. Un rythme, ça peut être deux mots, ça peut être...
Ah, le plus facile, ce serait avec Bastard Battle, puisque c'était très villonesque, mais ça va pas me venir là. Ça va pas me venir tout de suite. Vous me prenez de court là.
C'était un verre.
Oui, c'était un verre, et puis ou un verre trafiqué quoi.
Au fond, c'est ça. Vous trafiquez en fait.
Ah, je trafique beaucoup. Je fais que ça.
Et ça veut dire quoi trafiquer ? Ça veut dire à la fois voler.
Oui.
Ça veut dire...
Voler, bon, plutôt les morts, parce que comme ça, on est les vieux morts, les vieux morts. Oui. Et comme ça, on est tranquille aussi.
C'est une terreur, en fait.
Ah, oui. Mais voler en transformant, en minant, en chatouillant.
Au fond, la question que je vous pose, c'est comment naît la langue d'un texte ?
Oui, mais ça, c'est la question à laquelle on ne peut pas répondre, parce qu'on n'en sait rien, il y a quelque chose de magique là-dedans.
Magique ?
Oui, d'involontaire aussi, comme un mouvement du corps, involontaire.
C'est une matière, la langue ?
Oui.
Quelle matière ?
C'est une matière hyper plastique, très transformable, qui peut avoir des niveaux de dureté très différents. C'est comme l'eau un peu, mais en plus épais.
Oui, parce qu'il arrive qu'elle résiste. Je suppose.
Ah bah oui, ça résiste aussi. Oui.
Elle résiste à quoi?
Elle résiste à. Elle résiste à quoi? Elle peut résister à beaucoup de choses. Elle résiste aux bombes des fois.
Résiste aux bombes. Et qu'est-ce qu'on crée avec cette matière qu'est la langue? Qu'est-ce qu'on fait en fait?
On fait des mondes. On fait des mondes, on fait des passages, on fait des tunnels, on fait des poches d'air, d'oxygène.
À vous entendre, l'écrivain, c'est un démiurge.
Oui. Ou c'est un artisan un peu barré.
On va créer tous les deux. On va créer maintenant des éléments qui composent notre univers, notre monde, le vent, l'eau, le feu et la terre qui sont si présents dans Plasma. Vous nous avez écrit 4 courts textes inédits. On commence par le vent.
Il est humide, il est sec, il est bon, il est mauvais. Sur la terre, sur la mer, il est indispensable. Il est illimité, sans égal. Il va semer le désordre ou conseille. Il ne donnera pas son accord. La mer a blanchi quand il a surgi. Par les champs, par les bois, on ne l'a pas vu, il n'est pas pris. Il est bien vivant, ne vient pas quand on l'attend. Il ne berce pas doucement, il souffle en rafale, il est loin, il est là, il donne de la voix. Plus vaste sa bannière, il est muet, il est fou, il est fort. Il s'enroule et s'emballe, il est discourtois, il est doux, il est véhément, il est audacieux. Il va causer des torts, au conseil, il ne donnera pas son accord.
Du vent, on passe à l'eau.
Deux souris sur le sol, la pluie les désole. Des draps sur un fil, la pluie les délave. Des bourgeons sur la branche, la pluie les développe. On coule des routes sur le sol, la pluie les dévale. On pose des villes, des buildings, on pose des pipelines, on pose des lignes, des digues et des ponts, la pluie les enveloppe. On pose des clous, la pluie les enfonce. On pose des verrous, la pluie les défonce. On pose des villas sur le sable, la pierre, la boue, dans la vallée. La pluie les emporte.
Le feu.
Lumière d'une lampe de bureau, lumière d'opale. Lumière d'une lance, lumière évanescente. Lumière d'une lampe à pétrole, lumière de flamèche. Lumière trouée de lune, lumière de grenade, fumigène. Lumière dans la nuit, lumière d'huile, lumière de bombe, lumière froide. Lumière d'une lampe à alcool, lumière de cristal, éclair. Lumière de volcan, lumière d'éventrement, l'incendie.
Et enfin la terre.
Mon cheval aux oreilles en épi, mon cheval aux jambes d'argile, mon cheval à la crinière de petits arcs-en-ciel aux yeux d'étoiles, grands ouverts. Mon cheval à la tête du troupeau, mon cheval aux dents de coquille, mon cheval, ses sabots sur la peau de mon cœur, les oreilles en avant, comme un tambour. Mon cheval court.
Toujours le mouvement, Céline Minard.
Eh oui.
Il est partout.
Il est partout.
Mon cheval court. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans un cheval qui court?
Ah, tout. Tout, absolument tout.
Ça vous enflamme.
Ah, ça m'enthousiasme, oui. Et ça fait sonner la terre.
Ah, c'est ça.
Ah oui.
C'est à la fois une libération et à la fois un son.
C'est un son. Un cheval qui court librement, il profite de l'espace. Il désigne l'espace. Il traverse l'espace. Il est l'espace.
Alors c'est un créateur, comme vous.
Sûrement.
Avec quel élément est-ce que vous vous sentez le plus en phase, vous? L'air, l'eau, le feu? La
J'aurais
terre.
Du mal à choisir, pas le feu. La terre, l'eau, le vent, je sais pas.
J'adore.
Pas le feu, en tout cas.
Mais pourquoi pas le feu?
Mais je sais pas, j'ai peur de l'incendie, moi.
L'eau?
L'eau, oui. Mais l'eau, parce que, voilà, comme la langue, voilà, l'eau, ça peut être la glace, ça peut être la vapeur, ça peut être le flux, ça peut être la mer, ça peut être une goutte, ça peut être, voilà, tout ça, c'est l'écriture. Ces variations, de 1 à 100%, quoi.
Où est-ce que vous êtes allé les rechercher, ces éléments?
Bah, ils sont autour de nous, quand même. On vit dedans, on vit sur Terre, on respire l'air, on boit de l'eau, enfin, pas toujours, mais... Et on allume le gaz, au moins. Mais enfin, dans les Corbières, par exemple, où j'habite en ce moment, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de collines, et il y a beaucoup de bois. Et j'espère pas trop de feu.
C'est la question que j'allais vous poser. Il a fallu quitter la ville, justement, pour les retrouver.
J'ai jamais perdu le contact avec les arbres, la montagne, l'air et le volume.
Mais peut-être que vous les accédiez par l'écriture à l'époque.
Oui, mais je me tirais souvent de Paris, quand même.
À ces 4 éléments, si vous deviez en imaginer un 5e, quel serait-il?
Attendez, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas que Luc Besson qui peut inventer les cinquièmes éléments. Il y a Céline Minard aussi dans vos mondes. Moi, je vous le dis.
Mais peut-être que le cinquième, c'est la langue, justement. N'est-ce pas?
Ça serait beau. Merci tellement, Céline Minard, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Plasma est publié aux éditions Rivage, que c'est un livre mutant, un livre extraordinaire qui ne ressemble à aucun autre et qui brille par bien des aspects. Merci pour tout ça. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villa et son Instant M, juste après ça.
"170 au compteur, je passerai presque inaperçu. On s'est écrit tout à l'heure, je ne veux pas de malentendu. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attarde. Envie déçue ou amour fou. Y a mes idéaux qui me lâchent. Toutes les nuits, même si je ne t'appelle pas, je te rêve l'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te voit. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Si seulement ça faisait envie de les voir faire n'importe quoi. On s'habitue à presque tout. C'est fou comme on s'attache. Là dans mon cou, tu es revenu. Y a ma raison qui me lâche. L'après-midi, je te cherche dans les draps. On t'appelle mélancolie, tu repars comme on te va. C'est une bien vilaine manie, mais on ne s'en passerait pas. Casquette de ciel enfoncé, on se croira toujours heureux. Nos cœurs sont pourtant gris foncé. Je dors pour rêver un peu, pour qu'on vienne me réveiller. Les étoiles que j'ai dans les yeux ne sont pas des lunes accrochées. Je sors le soir avec ma lady, elle porte lunettes et traits d'esprit. Des dollars plutôt que du brandy, c'est des faux espoirs qu'elle vous brandit. Vous l'avez tous aimé mon ami, elle vous rend visite toutes les nuits. Je voudrais pourtant qu'elle me quitte, et que de mes peines je m'acquitte.
PR2B, Mélancolie, 9h40 sur France Inter. Sonia De Villa, l'Instant M. Salut, chère Sonia.
Salut, cher Augustin.
Je vous ai pas dit bonjour.
Bon, bah, salut alors.
Bah, je vous redis bonjour.
Et à demain.
À demain.